on débute avec les grands titres de l'actualité. Le Premier ministre Scott Morrison sous pression pour sa position quant au remboursement des indemnités après les inondations dans le Queensland. Et la Formule 1, le Grand Prix qui revient à Melbourne après 3 ans d'interruption et une pandémie mondiale. On débute ce journal avec le Premier ministre Scott Morrison qui a annulé sa décision de ne pas soutenir un programme de financement de plusieurs millions de dollars après des inondations dans le sud-est du Queensland. Le gouvernement fédéral a initialement refusé de payer les indemnités promises par le gouvernement donc du Queensland d'une valeur totale de 741 millions de dollars. Le gouvernement fédéral affirmant que la majeure partie de ces indemnités était la responsabilité de l'État. Cette décision a incité le Premier ministre par intérim du Queensland, Cameron Dick, a fustigé le Premier ministre, l'accusant de faire de la politique avec les victimes des inondations à la veille des élections fédérales. Mais Scott Morrison a déclaré à Brisbane sur Radio 4BC que son gouvernement avait déjà versé 379 millions de dollars au Queensland et en plus des 52 millions de dollars que l'État n'a pas encore dépensés et qui ont été fournis pour les indemnités après donc ces inondations les 3 dernières années. On écoute Scott Morrison.
We're happy to have shared responsibility here, and I think I'm demonstrating that today. We made a reasonable response. It was politicised by the state government, so I'm just not going to allow that to go on. So we'll stump up, but I'm looking forward to the Queensland government being more transparent about this. We're now meeting 2/3 of the costs of the flood response in Queensland.
Le Premier ministre Scott Morrison. D'ailleurs, il est une nouvelle fois interpellé par un membre du public lors d'une escale non officielle dans un pub à Edgeworth. Scott Morrison a été abordé par un retraité sur le sujet de l'aide aux personnes handicapées et cette personne a pointé à plusieurs reprises son doigt au visage du Premier ministre tout en lui criant dessus, utilisant un langage qu'on pourrait appeler de coloré. L'homme a dit à Scott Morrison qu'il avait travaillé dans les mines pendant 30 ans mais que sa retraite était maintenant affecté par les règles sur les revenus des retraités. Il a accusé Scott Morrison d'avoir rompu les promesses électorales sur plusieurs questions.
We've been fighting for 12 years, mate.
Okay.
12 years. You treat a disability pensioner that's worked all his life, paid his taxes, now he's getting taxed again. This is what you said when you got elected last time. Yeah. We're going to help all those people that worked all their lives, yeah, paid their taxes,
yep.
And those that have a go will, yeah, get a go.
Correct.
Well, I've had a go, mate. Yeah. I've worked for my life,
right, okay,
and paid my taxes.
Voilà donc pour cette altercation. De son côté, la sénatrice Jackie Lambie a déclaré à Channel 9 que la confrontation montre les pressions subies par les nombreux Australiens.
I think right now going through COVID, people have been doing it really, really tough over the last couple of years. And I can tell you, they're on edge. Things are tight out there, mate. The cost of living, the fuel, everything, rent, people can't get houses. That's where we're at right now.
Et c'était la sénatrice indépendante Jackie Lambie. Autre polémique qui entoure le Premier ministre Scott Morrison, mais celle-ci date de 2007. Michael Tonke a déclaré à l'émission Project sur Network 10 que Scott Morrison avait mené une campagne de diffamation vicieuse, fin de citation, contre lui dans la bataille de présélection pour le siège de Cook en Nouvelle-Galles du Sud, le site des émeutes de Cronulla. Scott Morrison a nié les allégations, notamment qu'il avait répandu de fausses rumeurs selon lesquelles M. Tonke était musulman et que les gens ne devaient pas voter pour lui parce qu'il était libanais. Mais Michael Tonke dit que M. Scott Morrison n'a pas beaucoup de crédibilité en ce qui concerne la vérité et il a reçu cette semaine un SMS d'un des ministres du gouvernement en exercice disant qu'il le croyait. On l'écoute.
I'm not saying he's a racist. I don't know him well enough, but he's certainly used racism, Islamophobia, you know, bigotry. With refugees, with dead families of dead refugees, with migration policies, and it's been dumped on by his own side.
Allez, on passe à l'international maintenant. Le président américain Joe Biden a déclaré que de nouvelles sanctions imposées à la Russie étoufferont la croissance économique du pays pour plusieurs années à venir. Les nouvelles sanctions couperont les membres du cercle restreint du président russe Vladimir Poutine, y compris ses deux filles, d'un système financier géré par les Américains, ainsi que le blocage de deux banques russes, banques qui sont clés dans l'économie donc pour la Russie. Les mesures sont introduites à la suite des preuves de crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis par les troupes russes en Ukraine, le Royaume-Uni renforçant également ses sanctions, l'Union européenne indiquant qu'elle allait suivre le mouvement. Joe Biden dit que la Russie doit payer pour ses atrocités dans la ville ukrainienne de Boutcha et ailleurs. On l'écoute.
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation.
Joe Biden, le président américain, la ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'était à Bruxelles, avant des réunions donc sur la guerre en Ukraine. Les pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et les membres de l'Union européenne, imposent, je viens de vous le dire, de nouvelles sanctions contre la Russie après des révélations donc de possibles crimes de guerre en Ukraine. Monsieur Blinken devrait faire une pression pour que des mesures encore plus sévères contre la Russie lors des réunions des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN et du G7. Monsieur Blinken a déclaré que des discussions avec l'Australie contribueraient à l'établir un consensus sur l'importante question de défense. On l'écoute.
We're excited at the prospect of bringing some of our partners from the Asia Pacific together with NATO. That's certainly part of what we're doing here together, but also a lot of work that we're following up on that we've been doing together in the region through AUKUS many and other initiatives that we're engaged in, and of course the situation resulting from Russia's aggression in Ukraine.
Et un mot de sport pour conclure ce journal. Le Grand Prix de Formule 1 d'Australie est de retour à Albert Park, donc à Melbourne, après plus de 3 ans d'absence. La course de 2020 avait été annulée à la dernière minute en raison de la pandémie du Covid-19 et l'événement de 2021 avait subi le même sort. Le week-end est complet avec des portes ouvertes à partir de 9h30 ce matin. Les organisateurs promettent que la refonte du circuit de cette année offre de plus grandes vitesses et de plus gros dépassements. Le pilote australien Daniel Ricciardo a déclaré à Channel 9 qu'il était ravi d'être à la maison.
Very happy that we're back and in full force this year.
Daniel Ricciardo, allez, un coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il va faire 32 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 24 degrés également, à Hobart il fera 20, 17 pour Canberra, 22 degrés à Sydney, 22 également à Newcastle, 28 degrés pour Brisbane, 32 degrés à Cairns et toujours 35 degrés, la palme de la température pour Darwin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le journal des sports tout de suite après ça.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench